Bonjour à tous. Je suis pas grand, mais l'œil est juste. On vit dans un monde qui est très difficile. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On vit dans un monde où les gens sont de plus en plus fous. Ça, je peux vous apporter mon témoignage où c'est terrible. Et je m'aperçois que d'année en année, ben c'est de pire en pire. D'année en année, les hommes sont de pire en pire. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, qui va vous paraître bizarre, mais qui m'a beaucoup travaillé au travers d'une lecture dans la parole, c'est: est-ce que vous voulez trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Et c'est à une époque, les faits que je vais vous dire, c'est à une époque où il y avait vraiment des ténèbres. Et il y avait un plan moral, une corruption qui était au-delà de ce qu'on peut imaginer, qui était terrible. Et pourtant, au milieu de ces choses, il y avait un personnage qui marchait avec Dieu. Ce personnage s'appelait Noé. Alors vous avez tout, vous avez une explication dans la parole où on parle de l'homme, où on parle des grands quadrupèdes, et d'un seul coup, vous avez cette phrase: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu avait résolu une chose terrible. Il avait résolu de détruire tout ce qui avait un souffle sur terre. Et pourtant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelle magnifique phrase d'espoir. D'espoir que l'amour de Dieu a fait que une personne, une seule sur l'humanité, la parole ne nous dit pas combien ils étaient sur terre, mais une personne trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et souvent on se plaint de ce monde, on se plaint de plein de choses, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Et on peut tirer quatre grands principes de la vie de Noé. Le premier, c'est qu'il est possible de marcher avec Dieu, malgré l'anarchie et l'athéisme environnant, de toutes ces choses qu'on voit. La première chose qui différenciait Noé des contemporains, c'est qu'il marchait avec Dieu. Il avait, on peut s'imaginer, une foi d'enfant, et pourtant il marchait avec Dieu au travers de l'adversité. Et c'est le verset 9 qui nous dit: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était juste et intègre. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes au milieu des horreurs, au milieu de la fange de ce monde, et pourtant vous marchez avec Dieu. C'est certainement quelqu'un, comme vous devez l'être, j'espère, qui devait être considéré comme un excentrique, un fou. Et pourtant il avait une foi aveugle, et sans se poser de questions, il a obéi à Dieu. Il n'y a pas eu honte, il n'y a pas eu de doute. Il a obéi. Et ça, l'obéissance, c'est un point crucial qui aurait pu bloquer les promesses que Dieu avait pour Noé. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation? Dans la même que Noé, avec cette certitude que Dieu nous avait parlé. Et pourtant, l'émotion passée, on est allé à l'opposé des pensées de Dieu pour nous. Parce qu'on n'a pas obéi, parce qu'on s'est laissé envahir. Noé vivait au milieu de la corruption, au milieu de la méchanceté des hommes. Parce que le verset 5 nous dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Vous imaginez? Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Vous imaginez? Ce matin, on a parlé de l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il était affligé dans son cœur. Le verset 6 nous dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. » Affligé des comportements. Affligé des pensées. Est-ce qu'on n'en est pas cela aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'est-il pas affligé de ce monde? Mais qu'est-ce qu'il a résolu Dieu pour ce monde? Est-ce qu'on n'a pas envie de marcher avec Dieu ce matin quand on voit ces choses, quand on lit ces choses dans la parole? Dieu a résolu de détruire tous ceux qui avaient un souffle de vie. Et pourtant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Moi, je trouve ça fantastique qu'il marchait avec Dieu, malgré tout ce qui devait l'envahir, tout ce qui était à sa porte, ses abominations. Est-ce qu'on est pareil, malgré la persécution, malgré les décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu ? Dans ce monde que nous vivons, est-ce que Dieu va encore trouver des âmes qui se mettront en danger pour obéir à sa parole? Est-ce qu'on va faire partie de ces gens qui, quoi qu'il arrive, vont marcher avec Dieu? C'est la question que je me suis posée. Et qu'il faudra se poser un jour, assumer ce que l'on dit. Être fils et fille de Dieu. Noé l'a pas regardé à ça. Il marchait avec Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour cette chose. C'est qu'il marchait avec Dieu. Quoi qu'il puisse arriver. Est-ce que nous, quoi qu'il puisse arriver, on marche avec Dieu dans les épreuves, dans la joie, dans le deuil, même dans les choses incompréhensible que Dieu peut nous demander de faire. Est-ce qu'on marche? Marcher avec Dieu, ça veut dire avoir confiance. Est-ce que vous ne trouvez pas que Noé devait vraiment avoir confiance en Dieu? Et ça va être le deuxième point pour faire ce qu'il a fait. Le deuxième point, c'est que Noé a obéi sans réserve. Dieu lui a demandé d'accomplir une tâche étrange et difficile. Imaginez-vous, dans ce milieu, monde dans lequel nous vivons, vous êtes chez vous, lundi midi, Dieu vous dit clairement, écoute, tu me construis une arche dans ton jardin. Tu ne cherches pas à comprendre, tu construis une arche. Qu'est-ce qu'on va faire? Les conditions sont exactement les mêmes que celles de Noé. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais me dire, mais je ne peux pas, Seigneur, mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, j'ai tellement de bons voisins qui seraient capables de venir m'aider pour construire l'arche. Ils me diraient peut-être, t'es fou, mais ils me donneraient un coup de main. Mais imaginez que Dieu vous demande ça demain midi, 13h. Tu vas au castot, parce qu'il vous en vaudra du bois. Construis l'arche, parce que je vais détruire la terre. Imaginez la confiance de Noé quand il a reçu ça. Il n'a même pas discuté. Vous imaginez qu'il ne savait absolument pas ce que c'était une arche Et en son temps, personne n'avait même construit un bateau. Et lui, il est là, Dieu lui dit, ben, tu vas construire une arche. Voilà, je vais te dire, elle doit faire autant de pieds, autant de hauteur, oh, il y aura autant d'étages. Débrouille-toi. Imaginez ce pas de foi. Est-ce qu'on réalise le pas de foi et surtout d'obéissance? Et le secret, il nous est révélé au verset 22 du chapitre 6 et au verset 5, deux fois ça nous est révélé. Au verset 5 du chapitre 7. Alors, 5. Une phrase. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça démontre bien, puisque c'est dit deux fois, l'importance qu'il faut vraiment apporter à cette chose et prêter à cette chose. Noé ne s'est absolument pas posé de questions sur ce que vont dire les autres. Il ne s'est pas dit « ils vont me prendre pour un fou ». Il ne s'est pas dit « ça va sembler ridicule ». Il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et gloire à Dieu pour un tel homme. Et moi, je me suis arrêté sur une chose. C'est que la réussite de l'entreprise, elle réside dans tout ce que l'Éternel... Il n'a pas été dit dans ce que l'Éternel lui avait dit. C'est important de comprendre ça, parce que Noé n'a pas laissé de place à ses pensées, à ses jugements. Il a obéi simplement dans la totalité de la demande de Dieu, dans tout ce que l'Éternel lui avait demandé. Et si on réfléchit bien, lorsque le Seigneur nous a parlé, est-ce qu'on a obéi dans tout ce que l'Éternel nous a demandé ? Est-ce qu'on a obéi à tout ce que l'Éternel nous a demandé? C'est tellement simple et c'est souvent dans les choses simples que nous péchons, que nous tombons. Et on traîne des problèmes parce qu'on n'obéit pas à tout ce que l'Éternel nous demande. On dit... Allez, je vais faire ça. Seigneur, donne-moi la force de faire ça. Parce qu'on sait qu'autre chose, ça va demander plus. Mais le Seigneur ne bénit pas sur les œuvres. Il ne vous donnera jamais une bénédiction sur les œuvres. Il va vous donner la bénédiction sur l'attitude de votre cœur. Vous allez voir à la fin la promesse de Noé. La bénédiction de Noé. Parce qu'il a obéi sur tout ce que l'Éternel lui a demandé. Il s'est abandonné complètement au projet de Dieu. Même face au côté ridicule de la chose, vous imaginez en ce temps-là, ça devait paraître complètement idiot. En plus, il n'y avait même pas la mer où il était. En plein milieu de son jardin, il construit une arche. C'est fou. C'est complètement fou. Et nous, combien de fois on a bloqué la bénédiction de Dieu ? Parce qu'on a refusé la simplicité de la parole de Dieu. Et quand je dis nous, je me mets dedans aussi. Parce que j'ai refusé la simplicité de la parole de Dieu. J'ai cherché des complications. Je n'ai pas vu que le Seigneur voyait les choses simplement. Parce que Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons tout. Imaginez si Noé avait commencé à réfléchir sur la demande de l'Éternel, qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Toute sa famille serait morte. Parce que Dieu, en voyant le cœur de Noé, avait résolu de sauver Noé et sa famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et parce qu'on commence à réfléchir, parce qu'on commence à trouver que ben c'est tellement simple que c'est pas possible. Le Seigneur veut te sauver, oh, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est tellement simple. Parce que j'espère que vous avez compris ici que l'image du déluge, c'est l'image du baptême. La famille de Noé est passée au travers des eaux. C'est l'image du baptême. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple de considérer que l'arche représente Jésus-Christ qu'on se met des complications en disant « Mais non, c'est pas possible. Le Seigneur, j'ai tellement fait dans ma vie que c'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas me sauver. Le Seigneur ne peut pas m'aimer. » Et on continue à vivre dans le monde. Et c'est exactement ce qu'ont fait les gens qui étaient autour de Noé, qui ont trouvé stupide ce qu'ils faisaient. Et c'est le troisième point. Noé avertit son entourage du jugement à venir. Il leur a offert la possibilité de se repentir. La construction de l'arche, vous imaginez, c'est la plus longue épreuve de foi qu'on trouve dans la parole de Dieu. La plus longue épreuve. Parce qu'entre le verset 32 du chapitre 5 et le verset 6 du chapitre 7, il s'est passé 100 ans. Je ne sais pas si vous imaginez que vous commencez à prier pour quelqu'un, et nous on a une sœur, gloire à Dieu, qui l'a fait pour mon épouse, qui a prié pendant 20 ans, mais vous imaginez que le Seigneur vous laisse prier toute votre vie pour une personne, pour une cause, vous mourrez sans avoir vu que l'Éternel agit. C'est exactement ce qui est arrivé à Noé. Il a prêché pendant 100 ans. Et en 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le huitième, c'est-à-dire qu'il y avait les sept de sa famille plus lui, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il a prêché la parole. Il a annoncé les oracles de l'Éternel, je suis persuadé. La parole ne nous le dit pas. La parole nous dit qu'il marchait avec Dieu. Et pourtant, tous ceux qui étaient autour ne l'ont absolument pas écouté. Il a été le seul qui a compris et qui a répondu par obéissance à l'annonce du jugement imminent de Dieu. En Hébreux, chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé a obéi. Qu'est-ce qui nous empêche d'obéir aujourd'hui ? Pendant 100 ans, Noé a prêché la parole de Dieu. Il a peut-être prêché même en acte, en montrant ce qu'il était, en s'opposant à la corruption et à la violence. Il annonçait un jugement à venir. Parce que vous imaginez, quand il a commencé à construire l'arche, la parole ne nous dit pas s'il a été aidé. Mais je m'imagine qu'il a certainement été aidé. Il y a des gens qui ont dû lui amener du bois et qui ont dû rigoler en se disant « Mais il est taré, il ne va pas bien, lui. » Il construit un « je ne sais même pas ce que c'est ». Vous imaginez, même les gens étaient incapables d'expliquer ce que Noé faisait puisque personne n'avait vu. Les gens ont vu l'arche du salut. Les gens ont entendu certainement Noé parler de ce jugement qui allait venir. Tout le monde a dû rigoler, mais personne n'a obéi. Est-ce qu'aujourd'hui on rigole quand on entend le Seigneur nous parler ? Est-ce qu'on obéit lorsque le Seigneur nous parle ? Est-ce qu'on a les oreilles ouvertes lorsque l'Esprit nous parle ? Personne n'a pris garde à l'avertissement de Noé. Ils entendaient, ces gens entendaient le témoignage. Ils pouvaient observer la vie sainte de Noé. Mais à cause de leur incrédulité, ils ont laissé passer le salut de leur âme. Mais aujourd'hui, les temps n'ont pas changé. C'est exactement la même chose. Je dirais peut-être même c'est pire. Dieu avertit encore l'homme en lui annonçant un jugement imminent. Il offre à chacun la délivrance. Et l'arche, aujourd'hui, s'appelle Jésus. C'est lui notre arche. C'est lui qui doit se construire dans nos vies. Et on doit construire notre vie en Jésus. En Matthieu 24, versets 37 à 42, pour vous dire que on annonce également un jugement imminent. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. » Combien de gens encore aujourd'hui ne se doutent de rien ? Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le jugement est imminent. Il est imminent. Et là, je dirais même, c'est pire, puisque le jugement est intervenu au moment où Noé a fini de construire l'arche, alors qu'aujourd'hui, l'arche est là, ouverte. C'est Jésus-Christ. Et combien de gens refusent d'entrer ? Je disais vendredi soir, et je me suis dit la même chose à moi, combien de gens pourraient être sauvés ? On est là plein, nos églises sont pleines. Mais si on reflétait réellement ce qu'on déclare être, on n'aurait pas assez d'une église. On serait obligé de faire les cultes dans les champs, et même les champs ne seraient pas assez grands. Aujourd'hui, les rues sont remplies de gens qui militent pour plein de choses, qui sont à l'encontre de la parole de Dieu et pour la sacro-sainte liberté. La liberté, moi je vous dis, on l'a en Christ. On ne l'a pas avec les choses du monde. Parce que si vous réclamez quelque chose dans ce monde pour être libre, c'est autre chose qui vous liera. Alors qu'en Jésus-Christ, c'est la liberté. Mais pas la liberté selon le monde. C'est que Jésus-Christ a le pouvoir d'enlever ce qui vous pèse dans vos cœurs. Il a ce pouvoir. Et la liberté réside dans ce fait-là. Que vous vivez dans ce monde pourri comme Noé a vécu dans ce monde. Mais vous vivez en homme et en femme libre en Christ. L'arche est ouverte. Et en psaume 95, les versets 6 à 8 nous disent « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Est-ce que ma vie attire les autres ou est-ce que je vis une vie de désobéissance? Une vie où c'est mes pensées qui me guident? Qu'en serait-il aujourd'hui de Noé s'il avait commencé à penser, s'il avait commencé à réfléchir? Il aurait désobéi. Et ce salut, l'image du salut qu'on voit en Genèse, n'aurait jamais existé. Vous allez me dire oui, mais bon, maintenant, on en est au même point. Mais ça prouve une chose. C'est que le mal est en l'homme. C'est qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Et on a fait partie de ces gens-là. On a fait partie de ces gens-là. Et on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était protégé, c'est le quatrième point, et sauvé par Dieu, lequel a rendu hommage à sa foi en lui faisant une promesse éternelle. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin dans vos vies. Il a des promesses pour vous. Noé a persévéré dans la foi alors que les circonstances lui étaient totalement contraires. Il n'a jamais eu de confirmation qu'il était dans le bon chemin. Il aurait pu se dire, mais après tout, c'est complètement fou. Je suis en train de construire un truc dans mon jardin, il n'y a même pas la mer, il n'y a rien du tout. Et il a continué. Pendant 100 ans, vous imaginez? Pendant 100 ans, la foi qu'il fallait avoir. Alors que certainement, il entendait les railleries. Alors que personne ne l'aidait en lui disant, vas-y, je suis persuadé que Dieu va te bénir. Personne ne lui a dit ça. Personne ne lui a dit, tu es bon, sur le bon chemin. Personne n'est venu pour le soutenir, peut-être sa famille. Et encore, quelle fidélité il avait. Il a prêché pendant 100 ans et il n'a vu aucune conversion. Aucune conversion. L'arche était restée ouverte. Il n'y a que les animaux choisis par Dieu qui sont entrés. La foi n'a besoin d'aucun signe ou de confirmation, c'est clair. Mais elle se plie simplement à la direction donnée par Dieu. Et la direction donnée par Dieu, c'est l'obéissance. À ceux qui marchent par la foi, Dieu déclare en Matthieu chapitre 25, verset 21, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Dieu ne regarde absolument pas au résultat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il regarde à la fidélité, il regarde au cœur. Comment est mon cœur ce matin? Si demain Dieu me demande des choses qui vont complètement l'opposé du monde, des lois de ce monde, comment vais-je réagir? Et pourtant la parole, si on réfléchit bien, nous demande d'aller à l'opposé de ce monde. Parce que des choses abominables sont mises en place dans ce monde. Est-ce que j'acquiesce? Est-ce que je me tais? Et lorsque je vous dis ça, je me dis ça à moi également. Est-ce que je me tais? Est-ce que j'annonce les oracles de l'Éternel au milieu de la boue? Noé l'a fait. Il l'a fait. Il n'a pas regardé son aura. Il a regardé à Dieu. On a tellement à gagner et si peu à perdre. Et si on vit dans ce monde, on a tellement à perdre et si peu à gagner. La différence, elle est là. La seule différence avec un grand S comme Seigneur, c'est lorsque je dis on a tellement à gagner, c'est qu'on gagne l'éternité lorsqu'on vit avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on gagne l'éternité. C'est difficile de faire comprendre ces choses au monde parce qu'on vit dans un monde où Dieu n'existe plus. On a des grandes religions qui apparaissent, la laïcité. On a des grandes religions où il y a plein de rites, mais même Jésus n'est même plus dans ce rite. Parce qu'on l'a remplacé par des saints, on l'a remplacé par des statues. J'étais stupéfait, et j'avais jamais remarqué ça dans la Bible, j'en parlais ce matin à Arlette, qu'il y a un roi qui a même été jusqu'à briser le bâton de Moïse. Parce que Les gens adoraient ce bâton. Vous imaginez? Est-ce que nous, on a ces mêmes images, ces mêmes adorations? Le monde adore ces choses. Combien il y a d'idoles? La télé, la plus grande des idoles, Internet, les téléphones portables. Je suis stupéfait quand je vois et je ne comprends même pas. Les gens, maintenant, dans la rue, vous leur dites bonjour, ils ne vous répondent pas, ils disent bonjour à leur téléphone. On a affaire à des gens tristes, parce qu'ils regardent sans arrêt le sol, ils sont toujours avec leur téléphone. Je serais curieux de savoir, la sécurité sociale rembourse combien d'accidents les gens qui claquent dans le poteau ou dans le mur, parce qu'ils sont là. Mais c'est triste. Et nous, on nous appelle parce qu'il y a une personne qui est morte depuis 3 jours dans un appartement. Et quand vous interrogez les gens, « Mais je ne l'ai pas vu. » Puis vous allez sur Facebook, cette personne a 10 000 amis. Incroyable, hein ? Et son voisin qui est mort depuis 4 jours à côté, elle ne l'a pas vu. Est-ce que c'est dans ce monde qu'on veut vivre aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne veut pas chacun, dites-moi la vérité, être fou selon Dieu ? Moi, j'aspire à être ça, être fou selon Dieu. Noé était fou selon Dieu, mais je ne voudrais pas être fou selon ce monde, parce que c'est de pire en pire. Les gens sont de plus en plus fous, et c'est à nous d'apporter le témoignage. C'est à nous d'être des Noé, de quoi qu'il arrive, rayonner Dieu et marcher avec Dieu. Noé est entré dans une nouvelle ère de l'histoire du monde, parce qu'à l'issue, Dieu s'est repenti d'avoir tué autant de personnes. Et Dieu a fait une bénédiction. Et cette bénédiction est arrivée suite à l'obéissance qu'il a eue. Parce que Dieu a regardé le cœur. Il n'a même pas regardé Noé construire l'arche. Il n'a même pas regardé. Il a simplement regardé le cœur de Noé. Cette fidélité qu'il avait à annoncer la parole, même devant, par rapport au monde, la bêtise de cet acte. Dieu a regardé le cœur de Noé. Et il parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. » On sait qu'à la fin des temps, c'est le feu qui détruira la terre, mais plus les eaux. Il n'y aura plus le déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc-en-ciel. Est-ce que ce matin je veux entrer dans l'arche ? Est-ce que ce matin, je veux construire cette arche ? Dieu a des promesses pour chacun d'entre vous, chacun. Pour ceux qui marchent avec lui, il a des promesses. Et bien sûr, ça suppose une chose, c'est qu'on marche à l'opposé de ce monde. On va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Si on appartient au petit nombre qui marche dans la bonne direction. La direction, elle nous est indiquée dans la parole de Dieu. Si vous avez des doutes sur votre vie, si vous avez des doutes sur tout ce qui se passe, lisez la parole, méditez la parole. C'est le sang de Christ qui va sortir de cette parole et qui va vous laver. C'est rien d'autre. Ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas vos jugements, ce n'est pas votre intellect. C'est la parole de Dieu qui va vous sauver. On est entouré chacun, et on l'a entendu, d'une grande nuée de témoins. Des hommes qui osent prendre position pour Dieu. L'arc-en-ciel, c'est le rappel de ce qui s'est passé. Qu'il y a eu un salut offert à l'homme. Une assurance pour l'avenir. Un signe visible de la promesse de Dieu. Pourquoi l'arc-en-ciel apparaît encore aujourd'hui ? C'est parce que la même promesse est en Jésus-Christ. Exactement la même. À la fin des temps, la terre sera plus détruite par l'eau, mais par le feu. Mais pour l'instant, la terre vit dans un monde de grâce et de promesses. Parce que Dieu a encore de la compassion pour l'humanité. Parce que Dieu, une fois, s'est repenti d'avoir détruit l'humanité. Mais avant que, à nouveau, Dieu ne détruise la terre, il y a quelque chose qui va apparaître dans les nuages. Ce n'est plus un arc-en-ciel, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui apparaîtra. Il faut marcher en conséquence avec Dieu dans une foi inébranlable. Est-ce que j'ai cette foi ce matin ? Est-ce que j'ai cette confiance ? Ou est-ce que j'ai peur du monde, de ce que le monde va penser de moi, de ce que le monde va imaginer, parce que ce monde vit sans Dieu et parce que vous vivez chacun avec Dieu. Est-ce qu'on veut trouver grâce aux yeux de l'Éternel ? Si on veut trouver grâce, il faut courir avec persévérance, les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui l'objet de notre foi. Chacun, si c'est le cas, on va assister à son retour gracieux et glorieux. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va monter avec lui. Et nous serons dans le tabernacle de l'Éternel, comme dit Apocalypse 21. Dieu sera avec nous. Nous serons avec Dieu. Il va essuyer toute larme, tout cri, toute douleur, toute maladie. Il enlèvera tout ce qui était avant et pour l'éternité. Peut-être que ce matin, tu te dis, j'arrive pas à marcher avec Dieu, c'est trop difficile pour moi. Et j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien trouver grâce aux yeux de Dieu. J'ai eu à cœur de dire, viens, avance-toi, lève-toi, ne regarde pas tes frères, tes sœurs, ne regarde pas ce monde, parce que le Seigneur te dit, viens, toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai le repos. Et le repos que Dieu veut te donner ce matin, c'est le repos de Christ, un repos éternel. Le Seigneur veut te donner la délivrance ce matin. J'ai eu à cœur qu'il veut délivrer des âmes ce matin. Délivrer des âmes des préjugés. Délivrer des âmes des carcans religieux. Parce qu'il veut que tu sois un Noé. Il veut que ta foi dure. Celle de Noé a duré 100 ans. Il a persévéré pendant 100 ans. Le Seigneur veut ces choses pour toi ce matin. Il veut te délivrer. Il veut que tu entres dans son repos. Et le psaume 95, je terminerai par ça, dit « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Je vous rappelle que ça s'adressait, bien sûr, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Je l'ai dit un mardi ici, ils ont maugréé pendant 40 ans. Ils ont dit plein de choses. Et juste avant d'entrer dans Canaan, la terre promise, il y a 600 000 Israélites qui sont morts. 600 000. C'était tous ceux qui avaient des pensées qui allaient à l'encontre de Dieu. C'était tous ceux qui avaient douté de la parole de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi parce que je veux que tu entres dans mon repos. Je veux que tu sois mon Noé. J'ai construit déjà l'arche. Jésus-Christ, entre dans Jésus-Christ et tu seras libéré.